France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Masnasavoy.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué, celui qui agit encore tel une révélation? Philosophes, sociologues, historiens et historiennes aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, pour la première fois de la saison, peut-être pas la dernière, c'est à la recherche du temps perdu que notre invité du jour doit sa révélation, à Proust donc, qui avait, au dire de Jean Cocteau, des airs de Capitaine Nemo.
Proust n'ouvrait jamais ses fenêtres. Il ressemblait avec sa barbe à une sorte de Carnot du musée Grévin ou d'amiral de Jules Verne. Il habitait dans cette chambre qui ressemblait à la cabine du capitaine Nemo. Oui, l'atmosphère était très sous-marine, était irrespirable. Et un jour, Proust possédait le théâtrophone. C'est un appareil qui doit être incompréhensible aujourd'hui. C'était une radio avant la lettre, une sorte de monstre, de pieuvre formé de tuyaux acoustiques et on y entendait l'opéra et l'opéra comique. Et un jour il me dit, j'ai eu une grosse crise hier parce que j'ai écouté Pélias, il me disait, je vais essayer de vous imiter sa voix, mon cher Jean, j'ai eu une grosse crise au moment où le vent du printemps passe sur la mer. Il parlait, comme je viens de vous l'imiter, en barbouillant de sa main sa voix sur son visage et dans sa barbe.
Bonjour Laure Murat.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. C'était la voix de Cocteau qu'on vient d'entendre en 1951. Vous qui connaissez tout de Proust, vous qui êtes la première ici dans cette émission à nous parler de Proust, mais je sais que vous n'allez pas être la dernière. Est-ce que vous connaissiez cette archive? Est-ce que quand on aime Proust, on voit un peu à quoi ressemble le personnage qui était Proust?
Oui, et pour moi qui attache beaucoup d'importance aux voix, les imitations que ses contemporains font de la voix de Proust, ça m'émeut énormément, enfin ça m'intéresse. Paul Morand fait une imitation extraordinaire qui est assez proche de celle de Proust.
Je ne peux pas vous demander de l'imiter, c'est ça?
Je ne l'ai pas connue intimement. Mais les gens au téléphone disaient que Proust avait pris la voix... Céleste Albaret avait pris la voix de Proust. Donc quand on entend Céleste Albaret, on doit entendre quelque chose, des intonations de Proust. On l'entend là par la voix de Jean Cocteau, c'est quelque chose de très... mélodieux et d'un peu mourant, comme ça.
Mmh. Enfin, là, c'est un petit peu ironique, même, non?
Bien sûr. Mais cela dit, tous sont d'accord, Proust parlait comme dans son livre, c'est-à-dire qu'il faisait des phrases interminables avec des relatives qui n'en finissaient pas,
Il
se perdait jamais, il ne perdait jamais le fil.
Laure Murat, vous êtes historienne et écrivaine, professeure de littérature à l'Université de Californie à Los Angeles. Il y a un an est paru votre livre « Proust, roman familial » aux éditions Robert Laffont. Il vient de paraître en livre de poche. Vous, pourquoi avez-vous choisi Proust? C'est quand même difficile en fait de choisir un monument comme ça. Quand on lit Proust, on se sent obligé de l'aimer. On se sent obligé de l'aimer peut-être d'une manière... original. Vous, c'est quoi votre lecture à vous de Proust?
Alors, ma lecture, comme beaucoup de gens, elle est plurielle. Elle est même différente d'année en année, d'une certaine façon. Elle a une spécificité qui ne fait pas sa supériorité, mais qui est que je suis née dans le milieu qu'il décrit dans la recherche. Il se trouve que les gens de ma famille sont cités nommément dans la recherche. D'autres ont inspiré des personnages, comme Robert de Saint-Loup, qui avait été inspiré par Louis d'Albufera, qui était un oncle éloigné. Donc, quand j'écris un livre qui s'appelle « Proust, roman familial », c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'il y a des rapports à plusieurs niveaux entre le monde décrit par Proust et ma propre famille. Alors, bien entendu, c'était autour de 1900. J'ai connu aucun de ces personnages-là, mais j'en ai beaucoup entendu parler.
Vous avez quand même vu peut-être des photos?
J'ai vu des photos, bien sûr. J'en ai découvertes aussi par la suite. Et j'ai essayé dans ce livre de faire des recoupements, non pas tant entre la réalité et la fiction, mais en essayant de comprendre. Vous savez, beaucoup de gens disent « ce livre a changé ma vie ». Il a changé ma vie pour plusieurs raisons que je veux bien développer. Et c'est ça ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Mais évidemment, ce que vous suggériez dans votre question, c'est que ce monument est très intimidant. Et c'est aussi contre ça que j'ai écrit ce livre, puisque j'enseigne et que j'ai un séminaire sur Proust. Je crois que la chose la plus importante, c'est de désinhiber les étudiants, mais les gens en général, par rapport à ce monstre sous-marin, comme dit Cocteau, et de se rendre compte qu'en réalité, c'est une lecture extrêmement enthousiasmante, c'est un livre à haute teneur comique,
c'est
palpitant. Et bien sûr, il y a peut-être ce qu'on appellera des longueurs, mais on passe. C'est un univers... quand on rentre dans Proust, on rentre dans une spirale. Mais c'est une spirale ascendante. Parce qu'il n'arrête pas de nous apprendre des choses. Donc, on veut tout le temps continuer. Et il y a une poétesse américaine qui s'appelle Anne Carson, qui a écrit un livre sur Albertine, où elle dit, quand elle finit Proust, elle dit « Et maintenant, quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Quand on finit Proust, on est un peu dans le désarroi.
C'est pour ça que vous n'avez jamais arrêté de le lire, de le relire et de travailler dessus, Laure Murat. Je vais faire part de ma propre expérience, Laure Murat, parce qu'il y a un an, justement, quand est sorti Proust, roman familial, votre livre, Laure Murat, je vous ai reçu ici sur France Culture, dans l'émission des Minutes Culture avec Nicolas Herbeau, et je vous avais dit que moi, je n'arrivais jamais à lire Proust, et vous m'avez donné le meilleur conseil qui soit, puisque je peux le dire, je suis en train de lire Proust, je ne l'ai pas fini. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le début. J'ai donc sauté du côté de chez Swann, et je suis allée directement à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Néanmoins, je me demande ce qui me plaît en Proust, moi aussi. C'est-à-dire que je me demande, est-ce que j'aime le fait de lire Proust, ce monument français ? Est-ce que j'aime le fait de me dire « j'en suis » ? Je fais partie de ceux qui vont peut-être atteindre la recherche du temps perdu, le lire en entier. Est-ce que j'y trouve un plaisir ? Je peux dire que oui, j'y trouve un plaisir de lecture, mais néanmoins, quand on est face à un monument comme ça, surtout en France, on est forcé de se poser cette question-là.
Et c'est un peu dommage, d'une certaine façon, parce qu'en effet, Proust, mais c'est pas de sa faute, c'est que Proust est écrasé, littéralement, la recherche du temps perdu est écrasée par une glose, une réputation, un snobisme aussi. Quand on dit « je ne lis pas Proust, je le relis », enfin toutes ces plaisanteries fines qu'on cite à propos de la recherche, qu'il faut avoir lu, et je crois qu'il faut absolument décomplexer tout le monde. Proust arrive à son heure, c'est un homme qui a écrit un livre sur le temps, et il faut respecter ce temps-là aussi, le temps de la lecture. Il y a un moment dans sa vie où on arrive à rentrer dans Proust. Tant qu'on n'y arrive pas, c'est pas grave. Il faut reporter. Et un jour, ça arrive. Et là, on file dans les couloirs du temps. Et c'est infini. Et c'est une joie sans pareil.
Est-ce qu'on est obligé de lire Proust en entier pour dire qu'on l'a lu ?
Non. Bien sûr que non, on n'est obligé à rien. On a le droit de sauter des passages, on peut commencer par « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Il y en a qui l'ont lu à l'envers, c'est-à-dire qui ont commencé par « Le temps retrouvé ». Enfin, je veux dire, moi, personnellement, j'ai rien à dire là-dessus. Un peu banalement, je dirais que c'est peut-être mieux de le lire du début à la fin, mais après, c'est pas très grave. Le tout, c'est de rentrer dedans afin d'attraper la courroie de transmission. Une fois qu'on est lancé, c'est bon. Et il faut peut-être préciser que Proust, et ça c'est très étonnant, a écrit La recherche du temps perdu, il a commencé par le premier volume et le dernier, et il a rempli au milieu. Quand on sait ça, c'est quand on a lu l'intégralité de la recherche, c'est très très étonnant, parce que c'est quand même 7 volumes, c'est pas non plus la mer à boire.
C'est quand même 2500 pages.
C'est 2500 pages, même peut-être 3000. Mais...
Dans l'édition que j'ai, Quarto, où tous les volumes sont rassemblés, c'est 2400 pages.
Voilà. Bon, c'est des grandes pages, c'est beaucoup, c'est certain.
Cryptique.
Mais vous savez, Les Misérables, c'est 2000 pages. On dit jamais, Les Misérables, on n'arrivera jamais à bout. C'est jamais que deux tiers que de la recherche,
c'est vrai.
Tout. Peut-être pas tout aussi, mais c'est extraordinaire, c'est un livre extraordinaire. Donc Proust, il a écrit Du côté de chez Swann et Le temps retrouvé, ce qui est connu maintenant sous le nom Du côté de chez Swann et Le temps retrouvé, au départ, et il a rempli au milieu. C'est absolument invraisemblable, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent entre ces deux volumes, le premier et le dernier, qu'on se dit, mais qu'est-ce que cet homme avait dans la tête? Il avait une usine entière qui fonctionnait à plein régime. C'est absolument impressionnant. Donc, ce n'est pas tellement absurde, voire de commencer par le temps. C'est un peu dommage, à mon avis, mais parce que, au fond.
Bah, si on commence par Albertine disparue sans connaître Albertine,
par exemple,
c'est un petit peu dommage.
Voilà. Mais par exemple, j'ai fait un livre il y a quelques années sur la relecture et Jean Echenoz, que j'avais interrogé, me disait, pendant, je sais pas, 20 ans, il faudrait retrouver la citation exacte, mais j'ai lu Proust par extrait. Donc il ouvrait la recherche et il lisait 3 pages. Et évidemment, pas toujours les mêmes pages, mais donc ça pendant des dizaines d'années. Et puis un jour, il l'a lu et il m'a dit cette chose très drôle. Il a dit, je l'ai relu avant de l'avoir lu. Ce qui était vrai. Donc vous voyez, c'est encore une autre façon de faire, et pourquoi pas.
Et vous, quand est-ce que vous l'avez lu pour la première fois, Laure Murat? Et est-ce que vous relisez maintenant Proust en visant certains textes, en ayant l'attente de retrouver telle soirée, telle description, tel moment de la vie du narrateur?
Alors, je l'ai lu assez banalement pour la première fois à l'âge de 20 ans. C'est facile pour moi de me repérer parce que je suis née en 67, donc j'avais 20 ans en 87. Et 87, c'est l'année où Jean-Yves Tadier a fait la nouvelle Pléiade, qui est l'exemplaire de référence, l'édition de référence. Et mon père, qui avait une bibliothèque extraordinaire, avait beaucoup de livres de la Pléiade, et je savais que quand une nouvelle édition paraissait, il me donnerait l'ancienne. Donc je guettais, de façon très intéressée, dès qu'il y avait une nouvelle édition, je savais que j'allais récupérer la vieille. Ce qui est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai retrouvé, à l'époque c'était en 3 volumes, la nouvelle édition est en 4 volumes, avec un appareil de notes formidable, mais la première était beaucoup plus maigre. Et ça m'a beaucoup émue parce que mon père prenait des notes sur la Pléiade, au bic ou au feutre. Alors ça fait pousser des cris d'orfraie aux puristes. Mais moi, ça m'amusait beaucoup. Et surtout, j'ai retrouvé donc, au moment d'écrire Proust roman familial, sa lecture à lui de la recherche dans ce volume, dans ces 3 volumes qu'il m'avait donnés quand j'avais 20 ans. Voilà. Donc là, il y a plusieurs couches, si vous voulez, de souvenirs. On est dans la recherche du temps perdu.
Il y a votre famille que vous essayez de retrouver dans la recherche du temps perdu. Il y a les notes de votre père, qui constitue sa lecture à lui. Et puis il y a votre lecture.
Votre lecture et le souvenir que j'ai de ma lecture à 20 ans dans les volumes où je le lisais quand j'avais 20 ans.
On va écouter Laure Murat, un extrait, un long extrait, c'est assez exceptionnel, on le fait peu, de Sodome et Gomorre, le début de Sodome et Gomorre que vous avez choisi. C'est un texte qui dure 4 minutes 30, là aussi, comme vous disiez, Laure Murat, il faut accepter de se laisser porter, d'attraper, comment vous disiez, la courroie de
la courroie de transmission.
Devant l'hôtel de la princesse de Guermantes, j'ai rencontré le duc de Châtellerault. Il y avait quelqu'un qui, ce soir-là, comme les précédents, pensait beaucoup au duc de Châtellerault, sans soupçonner du reste qui il était. C'était l'huissier, qu'on appelait dans ces temps-là l'aboyeur, de Madame de Guermantes. Monsieur de Châtellerault, bien loin d'être un des intimes, comme il était l'un des cousins de la princesse, était reçu dans son salon pour la première fois. Ses parents, brouillés avec elle depuis 10 ans, s'étaient réconciliés depuis 15 jours et, forcés d'être ce soir absents de Paris, avaient chargé leur fils de les représenter. Or, quelques jours auparavant, l'huissier de la princesse avait rencontré dans les Champs-Élysées un jeune homme qu'il avait trouvé charmant, mais dont il n'avait pu arriver à établir l'identité. Non que le jeune homme ne se fût montré aussi aimable que généreux. Toutes les faveurs que l'huissier s'était figuré avoir à accorder à un monsieur si jeune, il les avait au contraire reçues. Mais monsieur de Châtellerault était aussi froussard qu'imprudent. Il était d'autant plus décidé à ne pas dévoiler son incognito qu'il ignorait à qui il avait affaire. Il aurait eu une peur bien plus grande, quoique mal fondée, s'il l'avait su. Il s'était borné à se faire passer pour un Anglais et à toutes les questions passionnées de l'huissier désireux de retrouver quelqu'un à qui il devait tant de plaisir et de largesse, le duc s'était borné à répondre tout le long de l'avenue Gabriel « I do not speak French ». Je faisais la queue derrière quelques invités arrivés plus tôt que moi. J'avais en face de moi la princesse, de laquelle la beauté ne me fait pas seule sans doute, entre tant d'autres, souvenir de cette fête-là. Mais ce visage de la maîtresse de maison était si parfait, était frappé comme une si belle médaille, qu'il a gardé pour moi une vertu commémorative. La princesse avait l'habitude de dire à ses invités, quand elle les rencontrait quelques jours avant une de ses soirées, « Vous viendrez, n'est-ce pas ?» comme si elle avait un grand désir de causer avec eux. Mais comme au contraire, elle n'avait à leur parler de rien, dès qu'ils arrivaient devant elle, elle se contentait, sans se lever, d'interrompre un instant sa vaine conversation avec les deux altesses et l'ambassadrice et de remercier en disant « C'est gentil d'être venu ». La première personne à passer avant moi était le duc de Châtellerault. Ayant à répondre à tous les sourires, à tous les bonjours de la main qui lui venaient du salon, il n'avait pas aperçu l'huissier. Mais dès le premier instant, l'huissier l'avait reconnu. Cette identité qu'il avait tant désiré d'apprendre, dans un instant, il allait la connaître. En demandant à son anglais de l'avant-veille quel nom il devait annoncer, l'huissier n'était pas seulement ému, il se jugeait indiscret, indélicat. Il lui semblait qu'il allait révéler à tout le monde, qui pourtant ne se doutait de rien, un secret qu'il était coupable de surprendre de la sorte et d'étaler publiquement. En entendant la réponse de l'invité, le duc de Châtellerault, il se sentit troublé d'un tel orgueil qu'il resta un instant muet. Le duc le regarda, le reconnut, se vit perdu, cependant que le domestique qui s'était ressaisi et connaissait assez son armorial pour compléter de lui-même une appellation trop modeste, hurlait avec l'énergie professionnelle qui se veloutait d'une tendresse intime « Son Altesse Monseigneur le Duc de Châtellerault !» Mais c'était maintenant mon tour d'être annoncé. Absorbé dans la contemplation de la maîtresse de maison qui ne m'avait pas encore vu, je n'avais pas songé aux fonctions terribles pour moi, quoique d'une autre façon que pour Monsieur de Châtellerault, de cet huissier habillé en noir comme un bourreau, entouré d'une troupe de valets aux livrées les plus riantes, solides gaillards, prêts à s'emparer d'un intrus et à le mettre à la porte. L'huissier me demanda mon nom. Je lui dis aussi machinalement que le condamné à mort se laisse attacher au billot. Il leva aussitôt majestueusement la tête, et avant que j'eusse pu le prier d'annoncer à mi-voix pour ménager mon amour-propre si je n'étais pas invité, et celui de la princesse de Guermantes si je l'étais, il hurla les syllabes inquiétantes avec une force capable d'ébranler la voûte de l'hôtel.
Le début de Sodome et Gomorre de Proust dans À la recherche du temps perdu, texte de 1922, lu ici par Guillaume Gallienne et qui vous fait toujours autant rire. Laure Murat, je peux en témoigner.
Mais oui, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. J'ai peut-être lu ce passage, je ne sais pas, 40 fois, 50 fois. Je le lis à des amis pour tester leur réaction.
Pour voir s'ils ont
l'humour. Il y a même une amie qui m'a demandé de l'enregistrer. D'enregistrer la lecture. Enfin, c'est un passage qui, pour moi, était absolument extraordinaire. En plus, il ramasse beaucoup des préoccupations, évidemment, de Proust. L'homosexualité, au cas où on n'aurait pas compris, puisque Proust n'est pas totalement explicite sur cette faveur que le duc a accordée à cet homme qu'il a rencontré sur les Champs-Élysées, qui est une faveur sexuelle, bien sûr. Et puis, il y a cette affaire de la dissimulation de l'homosexualité, la honte, la délicatesse aussi, la délicatesse de l'huissier par rapport au mauvais jugement de l'aristocrate. Ça, c'est très important. L'aristocrate se voit perdu. Et d'ailleurs, Proust fait bien une césure hein, dans le texte. Il dit... Il le vit, il le reconnut, hein, un peu comme dans Racine. Hein, elle rougit à sa vue, etc. Donc tout d'un coup, on passe au passé simple qui marque un temps très précis. Et puis, il y a ce paradoxe qui court tout au long du livre, qui est un livre où il n'y a jamais d'aveu. La seule chose qui n'arrive jamais, c'est l'aveu. l'aveu de l'homosexualité. L'homosexualité est toujours dissimulée, est toujours cachée, même si elle peut être revendiquée. Les homosexuels se reconnaissent entre eux par des signes, par des codes, mais il n'y a jamais d'aveu. Or là, ce que Proust arrive à mettre en scène, c'est un secret hurlé. Et ça, c'est absolument sidérant, parce que ça reste un secret, puisque il y a un pacte qui lie les deux hommes, personne autre que ces deux-là savent ce qui s'est passé, ne sait ce qui s'est passé, pardon, et en même temps, c'est crié dans un hôtel particulier avec des centaines d'invités.
Oui, donc, l'aboyeur, l'huissier, c'est l'aboyeur.
L'aboyeur, voilà.
C'est ça qui vous a touché, Laure Murat, ces secrets hurlés, ce paradoxe en fait de ne faire que parler, parce que là on arrive dans une soirée mondaine faite d'étiquettes où les noms sont aboyés, où en fait on va faire des mots d'esprit, on va passer notre temps à discuter, mais où paradoxalement rien n'est dit.
Exactement.
Mais dès le début, dès votre première lecture, vous vous êtes dit, alors, il y a quelque chose quand même qui se dit de ce qui ne se dit pas. Et ça, c'est un roman de la frustration.
Alors, c'est très compliqué, ça, votre question. Et je pense qu'elle est valable pour n'importe qui. On a des enthousiasmes, les grands enthousiasmes de lecture, c'est entre 15 et 25, je dirais.
C'est vrai.
On lit énormément, enfin, quand on aime ça, bien sûr.
Tous les invités qui sont venus ici, effectivement, ont lu leur texte aux alentours entre 15 et 20 ans.
15 et 25, moi je dirais 25, oui, c'est ça. J'ai lu à ce moment-là, mais... Des bibliothèques entières. Je n'arrêtais pas de lire. C'était comme une sorte de...
De drogue.
De drogue, oui, oui, de drogue, absolument. Alors, je continue toujours à lire, bien sûr, mais pas avec la même... Il y a une sorte d'énergie libidinale, je dirais, à lire de façon compulsive à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on comprend dans Les Feux de la Passion, d'une certaine façon ? Peut-être pas grand-chose. Parce que, alors, on ressent beaucoup de choses. On sait qu'il y a là... des choses auxquelles on va revenir et que la vie ne nous a pas encore expliquées. Alors après, on a des expériences et on revient à ce qu'on a lu et on comprend la puissance d'explication métabolisée, en quelque sorte, par le roman. Parce que le roman, c'est quand même ça, ce qui métabolise toutes les connaissances, d'une certaine façon, et la sensibilité, à travers la sensibilité. Et le style, évidemment. Donc, Proust, à cet égard, est très spécifique parce que, dans ce roman, c'est pas une parole de fanatique. Hein, il y a tout dans ce livre. Tous les gens qui l'ont lu le savent.
Mais ça veut dire quoi, tout ?
Alors, comment peut-il y avoir tout ? Alors qu'il nous raconte
des choses qui ne
des
se
histoires
disent pas.
Mondaines.
Oui, et puis aussi des choses qui ne se disent pas, dans un certain milieu, à une certaine époque. Voilà, qu'est-ce qui est dit de tout, alors que Proust n'est qu'un seul regard, d'ailleurs on y reviendra sur le regard de l'écrivain, mais il nous offre son monde à lui. Il ne nous offre pas la totalité du monde.
Alors, à travers son monde à lui, je crois qu'il y a à peu près... Toutes les questions, non, il n'y a jamais toutes les questions. Mais enfin, disons, la plupart des questions très graves de l'existence, à commencer par celle du temps, quand même, de la mémoire, hein, de l'art. C'est le grand livre de l'art en tant que pratique et en tant que nécessité, ça, c'est certain. C'est un livre philosophique, c'est un essai, c'est un roman, c'est un théâtre, c'est etc., etc. Donc... à travers une forme de... Enfin, à travers la phénoménologie, tout simplement. Hein, il arrive à nous donner non seulement les impressions que nous avons ressenties, qui que l'on soit dans le monde. C'est ça qui est extraordinaire, parce que des cercles proustiens, il y en a dans le monde entier. Au Japon, par exemple, les Japonais sont très fans de Proust. Qu'est-ce que les Japonais ont à voir avec le Faubourg Saint-Germain ? Peut-être beaucoup. Et ça, c'est grâce à Proust aussi. Puisqu'il nous offre un déchiffrement du monde, un déchiffrement de situation sociale, alors évidemment, très située, le Faubourg Saint-Germain,
les Champs-Élysées,
les Champs-Élysées, enfin, a priori, c'est une tête d'épingle. Mais il y a tout dedans. Alors, c'est une banalité que de dire que plus on est singulier, plus on est universel. Mais la grande visée de Proust, quand même, et il en parle souvent dans la recherche, c'est les lois générales, ce qu'il appelle les lois générales.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la loi générale, bon, ça demanderait des heures, ça, mais je vais essayer.
Vous avez quelques minutes.
C'est déjà pas mal. À étudier certains exemples, il a l'ambition de tirer une loi générale qu'on va appeler psychologique pour aller vite, mais c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il arrive à repérer des motifs qui se répètent et surtout, surtout, il apprend à se dessiller sur non seulement le mensonge social, mais les faiblesses humaines, au fond. C'est ça qui l'intéresse. Et à travers ces analyses, il arrive à lire et à prévoir à la fin du livre. Tout cela n'ayant qu'un seul but, comme Mallarmé, hein, c'est d'écrire un livre. Hein. Mmh. Tout aboutit au livre, dit Mallarmé. Et ça, c'est la grande leçon du temps retrouvé.
Parmi ces lois générales, Laure Murat, par exemple dans ce texte, laquelle se dégage? Est-ce que vous pouvez nous en citer une qui est exposée dans ce texte, ou alors une autre qu'on retrouve et qui aussi vous tient dans la lecture de Proust?
Je crois que là, ce qui est difficile avec Proust, c'est que même si on commence par le deuxième volume ou le quatrième ou ce que vous voulez, il faut avoir tout lu pour être...
C'est là où je me sens mal.
Non, parce que j'ai commencé par le deuxième. Sentir mal. Vous savez bien que l'année dernière, quand on s'est vus, j'ai tout fait pour justement désinhiber. Hein. Non, il ne faut jamais se sentir mal avec ça. Non, ce que je veux dire, c'est que pour bien faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices, je ne peux pas faire semblant que je n'ai pas lu l'intégralité de Proust. Et je ne peux pas supposer que les auditeurs ou les auditrices aient lu l'intégralité de Proust. Bon. Mais dans ce petit exemple qui est tout petit, bon. Là, ce qu'il nous expose, c'est au moins deux choses, à part le côté comique de l'affaire. Les stratégies de dissimulation. Quand on est homosexuel, puisque c'est une grande question du livre, hein, qui, je rappelle, le volume du milieu s'appelle Sodome et Gomorre, donc on ne peut pas faire plus explicite. La question, c'est qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui ne se dit pas? Comment le dit-on? Ce qu'on appelle en anglais le body language, ce que dit le corps, qui peut être en contradiction avec ce que l'on dit. Exemple, à un moment donné, je crois que c'est dans La Prisonnière, où Charlus demande à Madame Verdurin si elle n'a pas de la fraisette. Et il le dit avec une sorte d'intonation pointue, où tout d'un coup, nous dit Proust, on voit la femme en lui. Alors ça, c'est des choses un peu compassées là, que Proust a développées, mais la femme en lui, dont la voix vrille dans les aigus et qui trahit l'homosexuel qu'il est en réalité, alors qu'il affecte la virilité. Tous ces gens ont quelque chose à cacher, tous ces gens le montrent d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne sais pas s'il y a là une loi.
C'est ce que j'allais vous dire. Ça peut être une loi, d'une certaine manière.
Et c'est en réalité, c'est une loi.
C'est le cas.
Une des autres obsessions de Proust, c'est, et d'ailleurs, c'est le problème de l'homosexualité à cette époque-là, puisque Proust tenait à une théorie qui est celle de l'inversion sexuelle. C'est-à-dire que les hommes homosexuels étaient des hommes qui avaient une âme de femme dans un corps d'homme, et les lesbiennes étaient des femmes qui avaient une âme d'homme dans un corps de femme. Bon, ça, c'est des choses évidemment très dépassées, mais il était absolument persuadé de ça. D'ailleurs, le mot homosexuel n'apparaît pas, ou une fois, je crois, dans la recherche. Ce qui veut dire que, à la rigueur, un homme plus un homme, pour Proust, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un inverti, il faut qu'il y ait un homme qui soit efféminé et qui rencontre un homme plus viril. Donc, c'est une façon de respecter l'hétérosexualité, si on veut. Donc, il y a tout le temps cette histoire d'inversion. Et là, dans l'exemple du duc de Châtellerault, il y a une forme d'inversion où on voit que le duc se trompe sur la délicatesse de l'aboyeur. Et l'aboyeur, il dit... Hein, veloute cette appellation qu'il trouvait trop modeste, etc., et dit avec énergie et fierté.
Et tendresse aussi.
Et tendresse, très important. Alors là, il est certain que Proust, bon, mais c'est un détail anecdotique, s'inspire de quelqu'un qui a été important quand même dans sa vie, qui est Albert Le Cusia, et qui savait tout du protocole, était homosexuel, et dont Proust dit qu'il est peut-être un des rares amis qu'il a eu. Bon, ça, il faut prendre ça avec quelques pincettes. Et surtout qu'il parlait mieux le français que la plupart des ducs. Il le dit dans une lettre.
Oui.
Donc, le préjugé social, c'est le duc qui se trompe et qui n'est pas bien malin. C'est l'aboyeur qui est délicat. Et ce sont deux invertis, soudés par un secret, qui est non pas découvert, alors il est découvert par le narrateur omniscient, bien sûr, mais qui est hurlé à la face du monde. Donc, ce que Proust nous dit, peut-être la plus grande leçon ou loi générale, c'est comment décrypter, comment déchiffrer le monde. Et ça, moi j'ai appris tellement dans ce livre, et je continue d'apprendre tout le temps.
Vous pensez parfois au narrateur ? Dans certaines situations de votre vie, face à une situation, une conversation, au travail, face à un paysage, en vous disant
oui.
Je retrouve ce que le narrateur a dit, ça m'aide à comprendre ce que je ressens face à cette situation.
Ah oui, ça souvent, bien sûr. Mais on est très, même si on a lu Proust, La Recherche plusieurs fois, ce qui est mon cas, comme beaucoup de gens, on reste vraiment en dette, quoi, par rapport à cet homme qui a compris tellement de choses. Je crois que j'aurais été, mais affreusement intimidée de le rencontrer. Moi qui ne suis pas timide du tout, je crois que je me serais cachée sous la table.
On va écouter un autre texte, Laure Murat. Justement, on y retrouve cette idée de déchiffrage du monde. C'est un extrait de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », le moment où le narrateur est face à un paysage avec le peintre Elstir.
Autrefois, j'eusse préféré que cette promenade eût lieu par le mauvais temps. Alors je cherchais à retrouver dans Balbec le pays des Cimériens. Et de belles journées étaient une chose qui n'aurait pas dû exister là. Une intrusion du vulgaire été des baigneurs dans cette antique région voilée par les brumes. Mais maintenant, tout ce que j'avais dédaigné écartait de ma vue non seulement les effets de soleil, mais même les régates, les courses de chevaux. Je l'eusse recherché avec passion pour la même raison qu'autrefois je n'aurais voulu que des mers tempétueuses et qui était qu'elles se rattachaient, les unes comme autrefois les autres, à une idée esthétique. C'est qu'avec mes amis, nous étions quelquefois allés voir Elstir et les jours où les jeunes filles étaient là, ce qu'il avait montré de préférence, c'était quelques croquis d'après de jolies yachtswomen ou bien une esquisse prise sur un hippodrome voisin de Balbec. J'avais d'abord timidement avoué à Elstir que je n'avais pas voulu aller aux réunions qui avaient été données. « Vous avez eu tort, » me dit-il. « C'est si joli et si curieux aussi. D'abord cet être particulier, le jockey, sur lequel tant de regards sont fixés, et qui, devant le paddock, est là, morne, grisâtre, dans sa casaque éclatante, ne faisant qu'un avec le cheval caracolant qu'il ressaisit, comme ce serait intéressant de dégager ses mouvements professionnels, de montrer la tache brillante qu'il fait et que fait aussi la robe des chevaux sur le champ de course. Quelle transformation de toute chose dans cette immensité lumineuse d'un champ de course où on est surpris par tant d'ombres, de reflets qu'on ne voit que là. Ce que les femmes peuvent y être jolies. La première réunion surtout était ravissante et il y avait des femmes d'une extrême élégance dans une lumière humide hollandaise où l'on sentait monter dans le soleil même le froid pénétrant de l'eau. Jamais je n'ai vu les femmes arrivant en voiture, ou leurs jumelles aux yeux, dans une pareille lumière qui tient sans doute à l'humidité marine. Ah, ce que j'aurais aimé la rendre! Je suis revenu de ces courses fou, avec un tel désir de travailler. Puis il s'extasia plus encore sur les réunions de yachting que sur les courses de chevaux, et je compris que des régates, que des meetings sportifs où des femmes bien habillées baignent dans la glauque lumière d'un hippodrome marin pouvaient être, pour un artiste moderne, un motif aussi intéressant que les fêtes qu'ils aimaient tant à décrire pour un Véronèse ou un Carpaccio. Votre comparaison est d'autant plus exacte me dit Elstir, qu'à cause de la ville où il peignait, ses fêtes étaient pour une part nautiques. Seulement la beauté des embarcations de ce temps-là résidait le plus souvent dans leur lourdeur, dans leurs complications. Il y avait des joutes sur l'eau, comme ici, données généralement en l'honneur de quelque ambassade, pareille à celle que Carpaccio a représentée dans la légende de Sainte-Ursule. Les navires étaient massifs, construits comme des architectures, et semblaient presque amphibies, comme de moindres Venises au milieu de l'autre, quand, amarrés à l'aide de ponts volants, recouverts de satin cramoisi et de tapis persans, ils portaient des femmes en brocart cerise ou en damas verts, tout près des balcons incrustés de marbre multicolore, où d'autres femmes se penchaient pour regarder, dans leurs robes aux manches noires à crevés blancs, serrées de perles ou ornées de guipures. On ne savait plus où finissait la terre, où commençait l'eau. Qu'est-ce qui était encore le palais ou déjà le navire, la caravelle, la galéasse, le Bucentaure?
Extrait d'Album des jeunes filles en fleurs de 1919, lu par Lambert Wilson. Quelle dernière phrase, Laure Murat, c'est vous qui nous avez indiqué ce texte. C'est le narrateur qui dit, avec les peintures d'Elstir, on ne savait plus où finissait la terre, où commençait l'eau, qu'est-ce qui était encore le palais ou déjà le navire, la caravelle, la galéasse, le Bucentaure. On voit bien là, en fait, on retrouve le paradoxe du langage qui, en fait, enferme tout, sous des conventions sociales, des étiquettes, des comportements, des conventions sociales. Peut-être que c'est la peinture, finalement, la solution, en fait. Peut-être qu'il faut abandonner le langage.
Mais là, la peinture serait rien sans la littérature, en réalité. Parce que le langage enferme, mais Proust, il ouvre tout. C'est ça. Cet homme qui était enfermé toute la journée, ou en tout cas pendant un temps très long dans sa chambre, a ouvert, a tout ouvert, justement. Il pratique des ouvertures en permanence, Proust. C'est le contraire de l'enfermement, alors que sa vie était plutôt dans l'enfermement. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Et quand se passait surtout la fin de ce passage...
Alors je me suis trompée d'ailleurs, c'est Elstir qui le dit, ce n'est pas le narrateur qui le dit. On ne savait plus
absolument
comment c'est l'eau.
Et c'est le narrateur, le Elstir qui le dit à propos... du cycle de Sainte-Ursule, je crois, de Carpaccio à Venise. Et en effet, quand vous regardez les tableaux, on voit très bien à quoi Proust fait allusion quand il décrit ça. Et ce que je pense qu'il fait quand il décrit ce genre de choses, et il fait exactement la même chose avec la musique, parce qu'il sait aussi bien parler de musique que de peinture, la littérature, n'en parlons pas, c'est l'objet du temps retrouvé. C'est l'objet de tout le livre, parce que vous connaissez la formule de Gérard Genette, à qui on avait demandé un jour, on lui avait dit, n'importe quel livre peut être résumé en une phrase. Et on lui avait dit, alors allez-y, La recherche du temps perdu. Et il avait dit, c'est l'histoire du petit Marcel qui devient écrivain. Mmh. Voilà. Et c'est ça, en effet, l'histoire d'une vocation. Hein, le narrateur est tout le temps persuadé qu'il n'y arrivera jamais, et à la fin, il a peut-être trouvé la clé, si bien qu'on est obligé de revenir au début. Donc on reste enfermé, justement, dans ce cercle vertueux qu'est la recherche du temps perdu. Mais pour en revenir à cette description, cette faculté qu'a Proust de convoquer le monde dans une seule phrase, on a la mer, la terre, on a les pierreries, on a les tissus, on a les personnes, on a... Tout est là. Tout est là dans la magie, quoi, d'une phrase qui nous dit à quel point on est aliéné ou on ne l'est pas, d'une certaine façon. Le langage est quelque chose qui désaliène en permanence. Et là, il parle clairement d'une osmose, d'une cosmogonie. À Venise, alors là encore, dans une ville très singulière, en Italie, bon. Mais la mer, la terre, les femmes, la pierrerie, les soies, etc. Vous savez, Proust est très obsédé par beaucoup de choses, mais par le vêtement. Et il se trouve que j'ai été invitée il y a quelques semaines par une conservatrice de Galliera, du musée Galliera, du musée du vêtement et de la mode, à regarder des fonds là-bas. Et il se trouve que l'atelier de restauration des réserves de Galliera était en train de restaurer la cape de la comtesse Gréfulle. comtesse Griffule, qui était donc une femme de, qui a connu Proust et qui a inspiré la duchesse de Guermantes. Et j'ai compris, dans les réserves de Galliera, parce que la conservatrice a eu la gentillesse de me montrer d'autres robes de la comtesse Griffule, le chatoiement et la richesse et la, l'ampleur, la profondeur de ce que peut être un tissu. Et puis, c'était très émouvant parce que ce sont des tissus avec à l'intérieur une sorte de corps fantôme.
Est-ce que c'est, on voit la comtesse.
On voit la comtesse. C'est-à-dire qu'il y a son corps glorieux, comme on dit chez les chrétiens. C'est-à-dire le corps immatériel qui a habité, enfin le corps réel, le corps tangible, qui a habité tous ses habits. Et Proust a cette sensibilité de retrouver le monde dans une robe. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit ? J'aimerais construire mon lit. Il le dit dans La Recherche, hein, c'est nommément, enfin c'est écrit explicitement dans La Recherche. Comme une, j'aimerais écrire mon livre comme on construit une cathédrale, une robe.
On s'est beaucoup plus arrêté sur la cathédrale que sur la robe.
Bien sûr, mais la robe est absolument centrale. Et la place qu'elle occupe là dit bien à quel point elle est intégrée dans un monde qui est porté au plus haut de sa sensibilité. Des couleurs, des matières, des éléments.
Mais ça, c'est le monde des apparences. Les robes, tout ce que l'on perçoit, c'est-à-dire même les bateaux, l'eau, les soirées mondaines, la manière dont les gens se tiennent, ce qu'ils se disent. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression que Proust, à la fin, à la fois s'en désole de ce monde d'apparences et en même temps nous y fait percevoir quelque chose de plus, en fait. Donc, c'est pas aussi manichéen que d'un côté, le langage, les apparences qui nous aliènent, et de l'autre, le langage qui nous désaliène, celui de l'artiste, ou le monde de la mode avec des belles robes. C'est beaucoup plus entremêlé que ça.
Bien sûr, parce que ce qu'il nous offre, c'est un monde en fusion, d'une certaine façon, à travers la sensibilité très spéciale, très spécifique, du narrateur. Évidemment, il y a toutes ces questions que beaucoup de théoriciens ont rebattues à propos de l'auteur et du narrateur. D'ailleurs, Proust lui-même a beaucoup parlé de ça dans Contre Sainte-Beuve, savoir le moi social, le moi de l'écrivain, etc. Il y a quelques années, il y a une lettre qui est passée en vente pour vous donner une idée de la confusion qu'il y avait même dans l'esprit de Proust. Hein. Alors, c'est des choses qui sont très étudiées. Mais enfin, il écrit à quelqu'un, je ne me souviens plus qui, et il dit la chose suivante qui m'a absolument sidérée. Donc c'est Marcel Proust qui parle, c'est pas le narrateur. Et il dit la chose suivante. Albertine est-elle lesbienne ? Je ne l'ai jamais su, mais ma jalousie me le ferait croire. Et c'est Marcel Proust qui parle.
Il parle d'un personnage de La Recherche.
Et il s'identifie tout à fait tranquillement au narrateur. Bien entendu. Hein. Tout d'un coup, Marcel Proust et le narrateur ne font plus qu'un.
Comme quoi, c'est quoi la leçon alors là, Laure Murat ? Je vous interromps. C'est le fait qu'on est tous des personnages, que lui-même se prend pour le narrateur ?
Non. Non. Le Proust ne se prend pas pour le narrateur. Il fait très bien la différence. Il est maître en sa demeure. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il joue aussi avec ça, bien sûr. Non, je crois que je ne sais pas s'il y a une leçon ou s'il y a une loi.
Oui, j'ai dit ça un peu bêtement, mais
non, mais non, parce que quelquefois il faut un peu simplifier, parce que ce sont des questions quand même très très complexes. Je crois que il ne faut jamais oublier, mais c'est le cas de beaucoup d'auteurs, c'est pas seulement Proust. La seule question, c'est son livre, hein, c'est tout. La seule question, elle est là, c'est dans l'accomplissement de ce livre. Et pour faire comprendre que la littérature, comme il dit, c'est la vraie vie.
Ah ben on va l'écouter alors, Laure Murat.
La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes, aussi bien que chez l'artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu'ils ne cherchent pas à l'éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d'innombrables clichés qui restent inutiles parce que l'intelligence ne les a pas développés. Notre vie, et aussi la vie des autres. Car le style pour l'écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde. Différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de chacun. Par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous. Savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier. Et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini. Et bien des siècles après qu'ait éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appela Rembrandt ou Vermeer, nous envoie encore leur rayon spécial.
Alors il me disait, j'ai tant à faire et j'ai un regret de penser que je n'aurai pas le temps de finir. Alors un jour, je lui dis comme un enfant, « Eh bien, il n'y a qu'à mettre le mot fin. » Et il m'a dit, « Ah, pensez-vous que ça se fait comme ça ?» Et puis enfin un jour, alors il m'a dit avec une espèce de rayonnement magnifique, « J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Quel don, mon Dieu, vous avez vu personne ?» Il me dit, « Oh, Céleste, si vous saviez comme je suis content, si vous saviez que c'est quelque chose d'extraordinaire que je vais vous dire, et quoi donc ?» Et bien enfin, j'ai mis le mot « fin » à mon livre. Alors je lui ai répondu, « Oh monsieur, que nous aurons encore des pages à coller et des rajouts à faire. » Ah ça, bien sûr.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et voilà comment se termine À la recherche du temps perdu, comme l'a expliqué Céleste Albaré en 1957, qui était donc la domestique de Marcel Proust et qui raconte dans des longs entretiens disponibles sur France Culture comment il travaillait, comment elle l'a accompagné. Mais comme elle le dit aussi, ça se finit jamais. Même la leçon finale qu'on a entendue juste avant Laure Murat, cet extrait du temps retrouvé lu par Denis Podalydès, quand il donne cette leçon, la vraie vie, la seule vie, c'est la littérature. Même là, en fait, cette possibilité reste ouverte, parce que qu'en est-il de ceux qui n'écrivent pas, par exemple ?
Alors ça, je crois qu'il laisse ça à la responsabilité des autres. Mmh. Mais pour lui, bien sûr, ce qu'il explique là, c'est que l'expérience pour l'expérience, si elle n'est pas consignée, si elle n'est pas approfondie, si elle n'est pas creusée, puisqu'il dit aussi que l'écrivain est un plongeur qui doit aller dans les profondeurs abyssales, sous-marine, il y a beaucoup, il y a souvent d'ailleurs des métaphores de sous-marine, etc., d'aller chercher le trésor qu'il y a tout au fond et l'explication aussi qu'il y a tout au fond. Donc, si la littérature est le seul art qui peut, une fois de plus, métaboliser tout ça. Maintenant, œuvre finie, certainement, il a mis le mot fin, mais œuvre qu'on peut penser aussi inachevé, puisqu'on sait que Proust rajoutait à peu près un tiers de son livre sur épreuve, et qu'il est mort en 1922. Les derniers volumes publiés, c'était Sodome et Gomorre. Il reste La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé, qu'il n'a pas eu le temps de corriger sur épreuve.
Donc, ils sont parus de manière posthume.
Donc, on peut penser, même s'il a bien mis le mot fin, d'ailleurs il l'a mis plusieurs fois, hein, donc on est bien sûr qu'il a fini, entre guillemets, mais peut-être que l'œuvre est aussi inachevée, mais c'est peut-être aussi une chance d'avoir une œuvre là qui est encore ouverte.
Mais vous posez une question dans votre livre, Laure Murat, Proust roman familial, en vous disant qu'en lisant La recherche, se produit exactement ce qui est décrit dans Le temps retrouvé, à savoir vous retrouvez le réel, vous comprenez quelque chose du réel qui jusque-là vous échappait et vous posez cette question, mais si le réel est dans la fiction, est-ce que mon réel, ma vie jusque-là, n'avait été qu'une fiction ? Ce qui revient à la question que je vous posais tout à l'heure, Laure Murat, sur mais finalement, la vraie vie, pas celle de la littérature, mais celle que nous vivons par exemple en ce moment même, Laure Murat, c'est quoi ? C'est de la fiction ? C'est des personnages qu'on joue ? Il y a rien de vrai, il y a rien de réel.
Anne Simon, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Proust ou le réel retrouvé, donne une sorte de formule pour dire le réel de Proust, selon Proust. C'est l'expérience plus l'imagination. L'expérience seule, l'expérience que nous vivons là avec deux micros à France Culture. Mmh. Bon, c'est une expérience. S'il n'y a pas d'imagination, de fantasme, de délire même, je dirais, autour de n'importe quelle expérience qu'on a, repasser au tamis de la mémoire, puis consigner dans un livre, ce sont des choses évanescentes. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein, ça ne veut pas dire que le réel n'est que dans la littérature. C'est pas ça. Le réel est bien là, il est tangible. Bon, mais pour qu'il soit totalement intelligible et qu'il serve en quelque sorte à quelque chose, alors oui, c'est une œuvre littéraire qu'il faut faire. Et Proust avait une formule extraordinaire pour parler de ça. Si on a encore 2 minutes,
allez-y.
C'est une lettre qu'il écrit à Geneviève Strauss, qui était Geneviève à Lévis et qui a été elle aussi une inspiration pour la duchesse de Guermantes. Et voilà ce qu'il dit de la façon d'écrire. La seule manière de défendre la langue, c'est de l'attaquer. Mais oui, Madame Strauss, parce que son unité n'est faite que de contraires neutralisés, d'une immobilité apparente qui cache une vie vertigineuse et perpétuelle. Car on ne fait bonne figure auprès des écrivains d'autrefois qu'à condition d'avoir cherché à écrire tout autrement. Et quand on veut défendre la langue française, en réalité, on écrit tout le contraire du français classique. Et la chute est extraordinaire. J'aimerais juste dire que dans la recherche, il y a une sorte de loi de bienséance sociale qui s'appelle la règle des 3 adjectifs, où on est censé monter crescendo, hein, de dire par exemple, voilà, joli, beau, magnifique, vous voyez, dans ce sens-là. Et Madame de Cambremer se trompe et fait toujours un diminuendo. Donc quand elle parle des qualités de Robert de Saint-Loup, elle dit il avait des qualités uniques, rares, réelles. Donc évidemment, ça redescend et ça manque complètement son effet. Je dis ça parce que, écoutez bien la dernière phrase de Proust, il fait bien un crescendo et j'aimerais qu'on écoute bien le dernier mot. « Hélas, Madame Strauss, il n'y a pas de certitude, même grammaticale. » Et n'est-ce pas plus heureux ? Parce qu'ainsi une forme grammaticale elle-même peut être belle, puisque ne peut être beau que ce qui peut porter la marque de notre choix, de notre goût, de notre désir et de notre faiblesse. Donc il met bien faiblesse à la fin. Et je crois que c'est pour ça que Proust est un auteur immense. Il parle de notre faiblesse.
L'accordéon joue en sourdine, des airs qui ne me disent rien, et de la chambre à la cuisine, j'écoute la radio du matin. Avant je t'écoutais chanter tous ces vieux airs. C'était bien. J'en ai marre de vivre seul dans la maison. Sans toi, tu vois, je tourne en rond. J'en ai marre, j'en ai assez de cette vie, de ces gens, de ces faux amis. J'en ai marre, je veux que tu reviennes. J'en ai marre, je veux que tu comprennes que sans toi, je ne suis rien.
Régine, j'en ai marre, 1978. Cette chanson, Laure Murat, pour introduire cette séquence de fin dans l'émission. On a parlé de votre amour pour Proust, amour immodéré pour Proust. Maintenant, parlons à l'inverse, et je sais que ça vous a donné du fil à retordre, d'un auteur, d'un texte qui vous résiste, que vous ne comprenez pas, dont vous ne comprenez pas l'amour des lecteurs. De qui pourrait-il s'agir alors ?
Mais ça, c'est vraiment la question à 1000 euros, là. C'est terrible. J'ai vraiment beaucoup cherché. Autant c'est plaisant de faire des exercices d'admiration, autant c'est chagrinant de devoir dire, ben, celui-là, je ne l'aime pas. Alors, je me suis dit, bon, vous m'avez aidé d'ailleurs, en me disant, mais est-ce qu'il y a un livre que vous avez essayé de lire que vous n'arriviez pas, vraiment, vous n'êtes jamais arrivé, comme beaucoup de gens pour Proust, par exemple. Eh bien, moi, c'était Harry Potter. Et j'ai vraiment voulu le lire. En plus, je m'intéresse beaucoup à la culture, à la pop culture, comme on dit, aux super-héros. Enfin, vous voyez, je ne suis pas du tout snob de ce point de vue-là. Il y a des choses qui m'intéressent beaucoup. Et d'ailleurs, un de mes plus beaux souvenirs aux États-Unis, c'est d'avoir vu dans un restaurant un enfant, il devait avoir 8 ans à tout casser, avec une lampe de poche. Mais absorbé, mais abîmé dans un livre énorme. J'ai fini à la fin du dîner par lui demander qu'est-ce qu'il lisait. C'était Harry Potter. Ce petit garçon était extraordinaire. Il était passionné par ce qu'il lisait. Je me suis dit, ce livre a quelque chose de très... Enfin, je veux dire, des millions de gens dans le monde le pensent, donc il doit y avoir une bonne raison. J'ai même donné ma carte professionnelle aux parents, en lui disant que s'ils voulaient venir à UCLA un jour, il était le bienvenu, je le recevrais dans le département de littérature.
Vous en rappelez ou pas?
Non. Je ne sais même pas s'il a l'âge encore de venir à, peut-être, de venir à l'université. Mais en tout cas, je me suis dit, là, il y a un secret, il y a quelque chose. Je m'y suis reprise, je ne sais pas, 10 fois. J'ai essayé en français, en anglais, en podcast, en ce que vous voulez,
en
audio, le film, je m'endors. Mais c'est drôle, parce qu'un magicien, c'est merveilleux, c'est une idée, bon, simple, mais il n'empêche, absolument merveilleuse. Je n'y arrive pas. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas pourquoi.
C'est un univers qui vous échappe, vous pensez?
J'arrive pas à m'y intéresser.
Mais déjà, est-ce que vous, quand on aime autant Proust et on a parlé du réel, on a mentionné ce terme à plusieurs moments dans cette émission, dans notre échange, Laure Murat, c'est pas assez réel Harry Potter en fait. Est-ce que ça vous éloigne pas justement de tout ce qu'on pourrait appeler des littératures de fantasy ou de genre?
Alors c'est vrai que la fantasy, c'est pas mon truc. J'ai pas d'attirance pour ça. Mais j'ai pas grand chose à dire à part cette bêtise subjective à dire ça me plaît pas. Je n'arrive pas à rentrer. J'arrive pas à me concentrer. Voilà. C'est un problème de concentration en fait. J'arrive pas, justement, la courroie de transmission ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il faut peut-être commencer par le volume 2 d'Harry Potter ou par la fin?
Je vais essayer, je vais écouter votre conseil.
Merci beaucoup à vous, Laure Murat. De vous, on peut lire Proust, un roman familial qui est paru aux éditions Robert Laffont, mais qui vient de paraître en livre de poche. Je signale aussi la reparution de vos livres, Relire Enquête sur une passion littéraire en chant Flammarion, Passage de l'Odéon, Sylvia Beach, Adrienne Monnier et La vie littéraire à Paris dans l'Entre-deux-Guerres chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire, avec une préface inédite que vous signez. Laure Murat, vous me signalez aussi que vous êtes la rédactrice en chef du Libé des historiens. Ça paraîtra jeudi prochain. Et bien sûr, lisez Proust à la recherche du temps perdu, disponible dans de multiples éditions. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation et à Anthony Thomasson à la prise de son. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Lundi, c'est Géraldine Mühlmann que vous retrouverez à ce micro pour une toute nouvelle série d'émissions d'Avec Philosophie. Ce sera sur l'ennemi.